que nous allons reprendre nos délibérations. Je vous prie de prendre place. Je déclare la séance ouverte. Je vous salue très cordialement. J'espère que vous n'avez pas accusé les fatigues de la séance de hier et que vous êtes en bonne forme pour monter aux ordons. Nous sommes en possession des excuses suivantes. Monsieur Willy Lindre, qui est remplacé par Monsieur Romain Warhol. Monsieur Georges Reyes par Madame Cathy Friollet. Monsieur Joseph Bietri par Monsieur Alphonse Froidbourg. Monsieur Jean-Paul Bonnemain par Madame Eliane Chitil. Monsieur Gabriel Nussbaum par Monsieur Marc Beuchat. Monsieur Jacques Sassé par Monsieur Joseph Guignat. Monsieur Gérald Chaler par Monsieur Germain Picré et Monsieur Gabriel Teubet par Monsieur Jean Kissler. J'ai quelques rapides communications à vous faire. Il s'agit d'un changement dans l'organisation des bureaux de deux groupes de notre Parlement. Le groupe du Parti libéral radical a appelé à sa première vice-présidence M. Michel Flutiger et à sa deuxième vice-présidence M. Joseph Bietri. Le groupe du Parti chrétien social indépendant a appelé à sa présidence M. Daniel Gerber et à sa vice-présidence Mme Madeleine Kolr, avec effet après la rentrée parlementaire. Je vous prie de prendre bonne note de ces changements intervenus au sein des groupes cités. Nous en étions restés, mesdames et messieurs, au point 15 qui concerne l'arrêté pour l'octroi d'un crédit pour l'achat d'un bâtiment en vue d'y installer l'arsenal cantonal. Le débat d'entrée en matière est ouvert. Je donne la parole à M. Chaler, président de la Commission des travaux publics et des transports.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chaque canton devant être en mesure de mettre à disposition des troupes de son territoire un arsenal cantonal abritant les effets d'équipement et du petit matériel, mais pas d'armes collectives, ou, à défaut, être au bénéfice d'une convention avec un autre canton disposant d'installations suffisantes. Actuellement, c'est cette deuxième disposition qui nous réjouit. Nous avons avec Berne une convention provisoire valable jusqu'en 83, nous permettant d'être desservis par l'arsenal cantonal de Berne. Cette solution, portant de nombreux inconvénients pour les utilisateurs, en particulier la distance et les frais élevés, ne pourra pas être renouvelée. Il nous importe donc d'appliquer la décision du 15 juin 1978 de l'Assemblée constituante. Celle-ci, après un long débat, a décidé quelles unités administratives seraient au bénéfice de la déconcentration. L'arsenal cantonal, relativement autonome et indépendant des autres services de l'administration cantonale, doit, conformément à la décision prise, être implanté en Agen. Sa localisation nécessite une localité desservie par voie ferroviaire et un raccordement souhaité à une voie industrielle. Elle demande également un accès routier suffisant et du terrain permettant le stationnement de véhicules aux abords immédiats du bâtiment. Les besoins en locaux sont de 1380 m², y compris ceux de jeunesse et sport. Le volume bâti devrait comporter environ 5000 m³. Dans le message que nous avons reçu, nous avons pu voir que deux possibilités ont été analysées, soit la construction d'un nouvel immeuble, soit l'achat d'un bâtiment existant répondant aux critères que je viens de vous énumérer. Tenant compte des éléments figurant en page 2 de ce message, auquel je vous prie de revoir, le gouvernement nous propose l'achat d'un bâtiment existant susceptible de devenir l'arsenal cantonal. La commission des travaux publics a visité la manufacture sur acier de bonneterie à Halle, qui nous est offerte pour le prix de 560 000 francs. Cet immeuble, situé en face de la gare, sur un terrain de 2300 m², dispose d'accès facile. Une voie ferrée de garage passe juste devant le bâtiment. Elle peut être utilisée pratiquement sans aucune transformation, ce qui, financièrement, est très intéressant. Cette construction de trois niveaux, érigée en 1905, est solide et en bon état. Les fonds peuvent supporter de lourdes charges, testées qu'ils ont été par le poids de nombreuses machines ayant occupé ces locaux. Les façades, la toiture, les fenêtres à double vitrage demandent bien sûr un rafraîchissement. Quant à la charpente, qui n'a heureusement pas été visitée par le Bostri, elle est en très bon état. Cependant, le corps central du bâtiment demande une transformation partielle, telle que installation sanitaire et ascenseur. La surface utilisable et le volume bâti correspond bien aux besoins fixés par le programme des locaux. Compte tenu de son implantation et de l'état du bâtiment, la commission des travaux publics et des transports juge l'acquisition intéressante pour le prix que je viens de vous énumérer, donc 560 000 francs. Elle vous recommande de voter l'entrée en matière ainsi que l'arrêté concernant cet objet.
Y a-t-il des rapporteurs de minorité au sein de la commission, Monsieur le Président ? Non. La parole est au représentant des groupes, Monsieur Minder.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, le message que le gouvernement a adressé aux députés fait mention de deux possibilités, construire un arsenal nouveau ou restaurer un bâtiment existant. C'est la deuxième solution qui a été retenue. Et lors de la séance de la commission des travaux publics du 16 juin 1981, l'architecte cantonal a développé les arguments qui sont à l'origine de ce choix. Le président de la commission, M. le député Chalère, vient de vous informer sur cet objet tout en formulant quelques remarques et certaines réserves. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le Parlement est appelé à voter un crédit de 560 000 francs pour l'acquisition d'un bâtiment. Il s'agit d'une première étape et les députés seront invités très prochainement à voter un nouveau crédit d'environ 1 million de francs, montant nécessaire pour la restauration et l'équipement de ce bâtiment. Il s'agit d'une dépense unique qui représente néanmoins une somme très importante à laquelle s'ajoutent, et de cela personne n'en parle, les frais qui résultent de l'exploitation d'un arsenal. L'addition de tous ces facteurs représente une charge considérable pour le canton. On peut dès lors se poser la question s'il ne serait pas judicieux de rechercher une autre solution, et contrairement aux affirmations du gouvernement qui font état de deux possibilités, nous avons la ferme conviction qu'il existe une troisième possibilité, beaucoup plus avantageuse pour les finances du canton. Notre affirmation est fondée sur une situation existante, vu qu'actuellement, l'arsenal cantonal est à Bure à la place d'Armes. Il s'agit en fait, comme l'a déclaré le président de la commission, d'un dépôt de l'arsenal cantonal de Berne, géré par la place d'armes. Cela permet néanmoins à tous citoyens soldats du canton d'échanger ou d'acheter du matériel militaire personnel. Cette solution semble fonctionner à la satisfaction générale, raison pour laquelle personne n'en parle. D'autre part, le gros des troupes effectuant du service militaire dans le canton est stationné à Bure. Et il est de notoriété publique que le soldat n'échange et ne complète pas son équipement personnel entre les cours de répétition, mais pendant les cours. C'est pourquoi nous estimons que l'implantation d'un arsenal cantonal doit être envisagée à la place d'armes de Bure, car nous sommes persuadés qu'un arrangement entre les instances fédérales et le canton est possible et souhaitable. Cela permettrait au canton de bénéficier des installations, de l'équipement et des services du personnel qualifié de la place d'armes. Cette solution aurait également l'avantage de permettre à la Caisse de la République des cantons du Jura de réaliser une économie de charges considérable. En conséquence, le groupe radical souhaite qu'une étude approfondie soit effectuée afin de déterminer les modalités d'une convention entre le canton et la Confédération pour permettre une exploitation rationnelle de l'arsenal cantonal aux casernes de Bure. Notre proposition est motivée d'une part par un souci d'économie et d'autre part pour donner l'occasion au Parlement d'effectuer un choix pour éviter d'être mis devant un fait accompli. Dès lors, je me trouve dans l'obligation de vous demander, mesdames et messieurs les députés, de surseoir en l'entrée en matière du point 15 de l'ordre du jour et de mandater le gouvernement d'effectuer une étude complémentaire dans le sens que nous préconisons.
La parole est toujours au rapporteur des groupes. Elle n'est plus utilisée. La discussion. D'autres membres de la commission, je m'excuse, des travaux publics et des transports désirent-ils s'exprimer? Ce n'est pas le cas, la discussion générale est ouverte. Elle n'est pas utilisée, je clôt la discussion. Est-ce que monsieur le rapporteur de la commission va encore s'exprimer? Oui, monsieur Chalère, vous avez la parole.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs, je tiendrai simplement à ajouter ceci, c'est que la Commission a donc décidé de vous présenter ce projet en connaissance de cause et que il est exact que Bure était sur les rangs, mais n'ayant pas été retenu, et M. Minder, membre de la Commission, semblait-il, était acquis à la proposition que la Commission vous fait aujourd'hui. Il n'a surtout pas manifesté d'opposition.
La parole est à Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le ministre François Mertenat.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je monte à cette tribune pour répondre aux objections présentées par Monsieur Minder au nom du groupe libéral radical. Et au fond, en ma qualité de chef du département de l'environnement et de l'équipement, je viens défendre à cette tribune l'acquisition d'un immeuble pour les besoins d'un autre département et plus particulièrement pour les besoins du service des affaires militaires. En ce qui concerne la procédure, je dois tout d'abord, comme vient de le faire le président de la commission, constatait une fois de plus que les représentants, certains représentants libéraux radicaux tiennent toujours un double langage. À la commission, on approuve les projets qui sont présentés et M. Minder, qui est bien sûr doublement intéressé puisqu'il est en même temps maire de Bure, et je comprends qu'il est peut-être une certaine déception de voir que la solution qui était proposée à Bure n'a pas été retenue, mais lui-même a reconnu à la commission que la solution proposée est une bonne solution, que le bâtiment proposé à Hall, du point de vue fonctionnel, est bien meilleur que ce que la commune de Bure pouvait offrir. Aujourd'hui, M. Minder revient avec une proposition totalement nouvelle, c'est celle de recourir à l'utilisation donc des bâtiments de la place d'armes de Bure. En tout cas, la commission, je n'assistais pas à toute la séance, mais c'est le procès verbal sous les yeux, cette proposition n'a pas été faite. Donc je regrette un petit peu que de telles propositions viennent au dernier moment et ne soient pas débattues préalablement en commission. Je réponds maintenant aux objections faites par M. Minder. J'ai ici un rapport établi par le service des affaires militaires et qui est fondé sur des directives et des informations de l'intendance fédérale du matériel de guerre. Bon, la création de l'arsenal cantonal va provoquer l'engagement de 5 personnes. Un intendant, un armurier, un sellier, 2 tailleurs, dont un coupeur. Et en ce qui concerne le traitement de l'intendant, ce traitement est pris en charge à 80% par la Confédération. En ce qui concerne l'exploitation, les autres membres du personnel de cet arsenal, les frais de traitement sont pris en charge à 70% par la Confédération. Et j'abrège sur les détails, mais j'ai ici une analyse approximative du coût d'exploitation qui démontre que après déduction de la participation de la Confédération, il restera à charge du canton 75 000 francs pour sa part annuelle. De sorte qu'on constate qu'avec la création de 5 postes de travail, eh bien, la charge de l'État en ce qui concerne l'exploitation de l'arsenal sera assez modique. Voilà les explications que je puis donner au PLV en ce qui concerne ces frais d'exploitation. Ceci étant dit, je dirais que l'acquisition qui vous est proposée a fait l'objet d'une étude conjointe au sein de l'administration, conduite par le service des constructions, conjointement avec le service des affaires militaires. Vous vous rappelez que l'Assemblée constituante avait décidé de localiser l'arsenal cantonal en Ajoie, et c'est donc en Ajoie que les possibilités d'implantation ont été recherchées. La proposition qui vous est faite aujourd'hui d'acquérir l'immeuble de la bonneterie d'Al procède d'une étude détaillée qui a été faite dans une collaboration parfaite entre le service intéressé par l'utilisation, c'est-à-dire le service des affaires militaires, et le service des constructions qui fonctionnait comme appui technique. Le problème a été étudié. On a relevé tout à l'heure que le Parlement n'avait pas de possibilité de choix. Je vous dirais également que le gouvernement a laissé le soin au service intéressé de faire l'étude. Il a enregistré la proposition qui était faite. Donc le gouvernement ne s'est pas non plus déplacé dans le terrain pour faire des visites d'immeubles. Et le gouvernement, sur la base des rapports présentés, des études faites, vous propose d'entrer en matière sur l'acquisition qui vous est proposée.
Nous sommes donc en présence d'une proposition du groupe libéral radical demandant le rejet de l'entrée en matière. Nous allons voter sur cette proposition. Monsieur Mindre, la discussion est close. Je regrette. Nous allons, à moins que votre intervention, disons, ne modifie votre position sur l'entrée en matière. Non. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Mindre. Au sujet de votre attitude au sein de la commission. C'est ça. Vous ne vous écarterez pas de ce sujet, M. Minou. Je vous remercie.
Je
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, le procès-verbal de la séance de la Commission dit bien que j'ai dit que je comprenais le choix de Hall au lieu de Bure, ce que je maintiens. Il ne faut pas oublier donc qu'il s'agissait du nom de la commune de Bure et j'admets que le bâtiment proposé à Hall est plus susceptible à être transformé en arsenal que celui que la commune de Bure a proposé au canton. Donc là-dessus, je ne change pas mon avis. Mais par contre, la proposition que je vous ai faite émane d'une étude qui a été faite au sein du groupe, étant membre de la commission Gérard du groupe. Là-dessus, nous avons, le groupe a été visité également le bâtiment de Hall, et après discussion, nous avons décidé de vous faire la proposition que j'ai développée tout à l'heure, et ceci uniquement pour des motifs d'ordre financier et d'ordre économique.
Merci. Est-ce que Monsieur le ministre veut répliquer? Puisque j'ai donné la parole à M. Mindre, il est logique que M. le ministre puisse répondre.
Oui, très brièvement, j'indiquerai que la proposition donc, d'implanter l'arsenal à la place d'Armes de Bure a été également envisagée. Et que c'est le service des affaires militaires lui-même qui estime, ce ne sont pas ici les techniciens du service des constructions, mais c'est le service des affaires militaires lui-même qui estime que la solution proposée ne convient pas. Je ne peux pas évidemment insister sur les raisons fournies par le service des affaires militaires, mais qui tient à avoir un arsenal cantonal bien séparé de la place d'armes de Bure qui dépend directement de la Confédération.
Voilà, bien involontairement, nous avons déjà mis en œuvre les modifications de notre règlement. Nous allons maintenant nous prononcer sur l'entrée en matière, donc nous sommes en présence d'une proposition de rejet. Les députés qui appuient la proposition du Parti libéral radical de rejeter l'entrée en matière sont priés de le manifester par un lever de main. Les députés qui acceptent l'entrée en matière veulent bien également le manifester par un lever de main. Par 33 voix contre 15, vous avez accepté l'entrée en matière. Nous passons à la discussion de détail et de l'arrêté concernant l'octroi d'un crédit pour l'achat d'un bâtiment en vue d'y installer l'arsenal cantonal. Article 1er, discussion. Ce n'est pas utilisé. Article 2, alinéa 1. Alinéa 2. Article 3. Article 4. Titre et préambule, pas de discussion. Nous allons nous prononcer sur cet arrêté. Les députés qui acceptent l'arrêté tel que présenté sont priés de manifester par un lever de main. Les députés qui rejettent l'arrêté présenté sont également priés de le manifester par un lever de main. Par 33 voix contre 2, vous avez accepté l'arrêté qui vous était présenté. Nous passons au point 17, puisque le point 16 avait été traité lors de notre séance de hier. Arrêté concernant le subventionnement de l'agrandissement de l'hôpital de Delémont. Le débat d'entrée en matière est ouvert et je donne la parole à M. Racordon, rapporteur de la commission de la gestion et des finances.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le message concernant ce point de l'ordre du jour étant fort complet et dûment motivé, il ne reste au rapporteur de la commission parlementaire chargée de donner un préavis qu'à faire état des informations complémentaires reçues et à rappeler la nature des engagements pris par l'État dans le domaine de la santé publique. Comme ce message a en outre fait l'objet de consultations auprès de 4 services administratifs et qu'il a été préavisé par la Commission de la santé publique, on peut admettre que tous les aspects techniques et médicaux ont été soigneusement étudiés. Le 4 juin 1981, la Commission de gestion et des finances a consacré une séance entière à l'examen du projet d'extension et de transformation de l'hôpital régional de Delémont. Ce dossier est important, non seulement par la dépense qu'il entraîne pour la collectivité, mais aussi par la décision de mise en place d'équipements nouveaux qui, dans une mesure notoire, corrigeront la faiblesse de nos structures hospitalières. Toutefois, avant de se prononcer sur le bien fondé de ce projet, notre commission a entendu un exposé de M. Francis Hublet, chef du service de la santé, sur le développement de la politique hospitalière du canton. Cette vue d'ensemble des structures dans le domaine sanitaire a permis de constater que cet agrandissement se situe parfaitement dans le cadre de la politique voulue par le service de la santé et par le gouvernement. Cette orientation avait pour but également de définir le rôle de l'établissement en question dans l'équipement hospitalier du canton. Il serait fastidieux d'énumérer ici tous les aspects du problème hospitalier, par ailleurs fort complexe, évoqué au cours de la séance de notre commission. Nous croyons néanmoins utile de signaler que le plan et la méthode de travail adoptés par le service de la santé pour l'aborder semblent judicieux et nous souhaitons par conséquent qu'il continue dans cette voie. En ce qui concerne la justification de l'extension de l'hôpital régional de Delémont, la statistique et l'occupation des lits montrent à l'évidence que les besoins se font durement ressentir dans toutes les divisions de l'hôpital. En chirurgie et en médecine, par exemple, le taux moyen d'occupation varie entre 96 et 104%, ce qui excède largement les normes en vigueur. Les questions se rapportant aux travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hôpital ont donné lieu à des explications satisfaisantes. Même si le Parlement n'a pas à discuter de la conception d'un projet dont le canton n'est pas le maître d'ouvrage, il n'est pas superflu de faire remarquer que ce projet est intelligemment conçu et qu'il prévoit une utilisation rationnelle des volumes construits. Toutefois, le prix de construction de 446 francs au mètre cube paraît assez élevé. Mais compte tenu du renchérissement dans ce domaine, et du genre de bâtiment dont il s'agit, il peut être encore considéré comme admissible. Le financement est certes le point qui doit le plus préoccuper le Parlement. Disons d'emblée qu'il a été calculé en fonction des possibilités financières de l'État et de celles des communes. Par conséquent, la charge qui en résultera pour l'un et pour les autres sera supportable. D'autant plus que le syndicat des communes bénéficiera d'un prêt au titre de la ligne qui devrait porter sur un montant de 5 millions de francs environ, remboursable en 30 ans. La part du canton, 70% du total, soit 18 340 000 francs, découle de l'article 47 de la loi sur les hôpitaux. Cette nouvelle dépense sera couverte au moyen du dixième du taux unitaire de l'impôt cantonal, dixième qui se situe entre 3 et 3,5 millions de francs dans les années à venir. Cette subvention sera en principe étalée sur 10 ans, selon la répartition figurant dans l'arrêté, alors que le décompte final devrait être établi à fin 1985. En outre, la part du déficit d'exploitation supplémentaire à charge de l'État, 48%, soit 311 600 francs annuellement, paraît supportable. Elle le sera d'autant plus que ces nouvelles installations devraient contribuer à une diminution du coût des hospitalisations à l'extérieur du Jura, qui pèse, comme vous le savez, lourdement sur le budget cantonal. Parmi les éléments favorables au projet, signalons le fait que sa réalisation entraînera la création de 100 nouveaux emplois, ce qui portera l'effectif du personnel de l'hôpital régional de Delémont à 465 personnes. D'autre part, nous souhaitons que la collaboration entre les trois hôpitaux, qui a fait des progrès, il faut le dire, s'en trouve encore améliorée. Vu les arguments contenus dans le message du gouvernement et ceux développés par les organes responsables de l'hôpital régional de Delémont au cours de la séance d'information du 27 juin dernier, les membres de la commission de gestion et des finances ont acquis la conviction qu'il est nécessaire d'entreprendre immédiatement les travaux d'assainissement et d'extension de cet établissement. En conséquence, la commission vous recommande à l'unanimité d'accepter l'entrée en matière et d'adopter l'arrêté fixant les modalités du subventionnement de l'État. La décision que va prendre le Parlement constituera en fait un préavis pour le premier référendum obligatoire qui aura lieu dans le canton du Jura.
Donc la commission unanime recommande l'entrée en matière, il n'y a donc pas de rapport de minorité. La parole est au représentant des groupes, monsieur le docteur Stucki. Pardon, monsieur le député, excusez-moi. On parle d'hôpital, docteur.
Monsieur le Président, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, en matière de santé publique, l'emprise fédérale s'accentue d'année en année, il faut bien le constater. Les cantons, cependant, ont réussi à maintenir certaines prérogatives qui les bercent peut-être d'illusions quant à l'application des procédures concrètes tout au moins, sinon quant aux lignes directrices d'une politique qui s'étatise de plus en plus et prend une place proportionnelle toujours plus importante dans le ménage confédéral. Seul ou à peu près, le domaine des hôpitaux leur appartient encore en propre. Depuis la dernière guerre, notre pays, pour obéir aux revendications dues à une véritable explosion de la médecine de soins, aux besoins réclamés par une population qui a enfin pris conscience de ses droits, et en profitant évidemment d'une situation de haute conjoncture, c'est littéralement couvert d'institutions médicales de bonne qualité, souvent enviées à l'étranger. Il faut s'en réjouir, tout en acceptant sans trop d'arrière-pensée la lourde charge qu'elle représente. Le moins que l'on puisse dire est que notre canton n'a longtemps pas été favorisé et que, jusqu'il y a 25 ans, nous avons vécu en marge d'une médecine hospitalière dispensée, fort bien d'ailleurs, loin de chez nous, par conséquent limitée par les habitudes, les distances et les moyens financiers à disposition. Une première prise de conscience de ce lamentable état s'est manifestée à Porrentruy dans les années 55, à force de travail, de démarche, je dirais aussi d'imagination, et finalement l'investissement de grosses sommes d'argent. La joie s'est pourvue d'un hôpital de qualité, doté d'infrastructures enviables et de suffisamment de places, ou presque, si l'on tient compte de la psychiatrie et de la gérontopsychiatrie, qui sont en train de faire une entrée fracassante sur le marché de la santé. Capable donc cet hôpital de rendre les services qu'on attend de lui pendant un certain temps. Si l'on tient compte des inévitables rénovations, de son entretien et des aléas exigés par une adaptation constante aux progrès médicaux, il ne devrait plus être l'objet d'investissements conséquents à court et à moyen terme. L'hôpital de Seignelay-Vieille a bien suivi. Son développement intelligent a mis au port ses installations raisonnables, pont qu'il a lui aussi trouvé sa stabilité pour un certain temps du moins. Mais reste celui de Delémont qui fait l'objet de nos préoccupations aujourd'hui. Sans avoir pour autant démérité car on y travaille bien, il faut admettre sans réticence qu'il est trop exigu pour la population qu'il dessert et qu'il a bien vieilli au fil des années. Il date des années 30. Son tour est donc arrivé. La commission des problèmes hospitaliers de l'Assemblée constituante en avait mentionné l'urgence et la nécessité dans son premier rapport. Nous ne saurions dès lors revenir en arrière, même si ces projets paraissent ambitieux. D'aucuns estiment que la somme à investir est importante. Elle n'est, à notre sens, que raisonnable et correspond en tout point à ce qui doit être fait lorsque l'on veut doter une région d'un hôpital moderne, compte tenu de la complémentarité et non de la concurrence, complémentarité qui devrait exister et en fait existe entre nos hôpitaux. Peut-être se souvient-on dans cette salle du débat qui avait entouré à la Constituante la destination du 10e hospitalier et son maintien aux constructions et rénovations des hôpitaux. Je pense que M. Bréchet s'en souvient. Donc, décision pleine de sagesse. Vous en conviendrez. Le groupe PLR votera à l'unanimité et en beau joueur qu'il est, l'entrée en matière et l'arrêté proposé. Permettez-moi, à moi aussi, de les voter dans les mêmes sentiments en tant que député d'Ajoie et membre de l'hôpital de Port-en-Trou.
La parole est à Monsieur Jean-Pierre Gigon.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le groupe démocrate chrétien approuvera l'entrée, approuvera l'arrêté concernant l'octroi de la subvention destinée à transformer et agrandir l'hôpital régional de Delémont. L'analyse de la situation appelle en effet les considérations suivantes. Les insuffisances de structure de l'hôpital sont de notoriété publique. Elles ont une fois de plus été répertoriées dans le message gouvernemental. Nous n'y reviendrons donc pas, si ce n'est pour souligner qu'elles concernent les domaines les plus élémentaires de la vie hospitalière, qu'il s'agisse des conditions d'accueil et d'hébergement des malades ou de celles tout aussi importantes dans lesquelles le personnel soignant et le corps médical sont appelés à œuvrer pour le bien des premiers. Les besoins évoqués ont été uniformément reconnus par les représentants de l'hygiène publique du canton de Berne qui, en 1975, déjà parlaient expressément d'un état d'urgence. Lors de sa visite circonstanciée du 21 juin 1977, la commission des problèmes hospitaliers de la Constituante, présidée par le docteur Stucki, concluait également à la nécessité de l'agrandissement projeté. Quant aux autorités cantonales jurassiennes, elles n'ont eu aucune peine à saisir l'acuité du problème qui a été analysé sous tous ses aspects et assorti de propositions constructives de la part du service de la santé. Par ailleurs, les communes concernées ont, dans un élan de solidarité, donné leur aval au projet sanctionné par l'Assemblée des délégués du 17 mars 1980. Comment se fait-il, me disait récemment un député à Joulot, que vous ayez attendu jusqu'à ce jour pour rénover et agrandir votre hôpital? La raison en est relativement simple, même si elle n'est pas évidente à l'observateur non averti. Il convient de juxtaposer deux données chronologiques et de les situer dans leur contexte. D'une part, la formidable explosion des connaissances et des techniques médicales dans la période située entre 1955 et 1975. D'autre part, l'arrivée à Delémont en 1972 d'une nouvelle équipe médicale qui s'est employée à poursuivre et à intensifier les efforts de la génération précédente. Or, toute négociation avec le pouvoir bernois ne pouvait qu'être vouée à l'échec dans la délicate et difficile période située entre le 23 juin 1974, date du premier plébiscite, et le 24 septembre 1978, date du vote fédéral sur la reconnaissance de notre État au titre de canton suisse. Dès avant et pendant cette période troublée de notre histoire, vous savez que le gérant de nos biens et de nos rentrées fiscales se refusait à reconnaître en nos associations et autorités un quelconque interlocuteur valable. Pour sa part, l'hôpital régional de Delémont poursuivait sa mission et ses objectifs. Dans l'impossibilité de pratiquer une politique expansive sur le plan architectural, cela s'entend, il se transformait en véritable termitière, développant en son sein les structures indispensables au bien de ses malades, malgré les taux d'occupation excédentaires. Le projet qui vous est soumis tient à la fois compte de besoins dûment objectivés, des possibilités financières du canton et de la planification interhospitalière jurassienne. Nous nous acheminons vers un établissement dont les dimensions raisonnables garantissent une qualité de vie acceptable pour les soignés et les soignants.
La parole est à Monsieur Marcel Thurberg.
Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le Parti socialiste s'est élevé à plusieurs reprises contre la hausse du coût de la santé. Il souhaite par conséquent, dans ce domaine, et conformément à l'article 99 de notre Constitution, une administration efficace et économe. Cependant, il faut remarquer que le problème qui nous occupe aujourd'hui est d'une autre nature, puisqu'il s'agit, par une construction, de réaliser les conditions minimales d'équipement et de fonctionnement de l'hôpital régional de Delémont. Les personnes qui ont séjourné dans notre hôpital et qui ont rendu visite à des parents ou des connaissances ou qui ont simplement entendu des commentaires de personnes hospitalisées savent que ni la nature des besoins ni leur ampleur ne sont des exagérations. Je ne vais pas en faire l'énumération non plus ici. Nous pensons que le message est suffisamment clair ainsi que les renseignements qu'on nous a fournis lors de la séance d'information du 26 juin dernier. Bref, au vu de la situation actuelle, nous estimons qu'en vue d'améliorer l'accueil et les conditions de séjour des patients hospitalisés d'abord, des patients ambulatoires et des visiteurs ensuite, du personnel travaillant à l'hôpital enfin, la construction des agrandissements est indispensable et urgente. Une seule question demeure, a-t-on envisagé une construction nouvelle plutôt que les agrandissements qu'on nous propose? Et si oui, pourquoi y a-t-on renoncé? Quant au surplus, nous pensons que la dimension du projet reste dans des limites du convenable, tant du point de vue médical que politique, et supportable financièrement. Certes, nous ne résoudrons pas tous les problèmes de nature médicale qui se posent au district de Delémont, notamment en matière d'hébergement de malades âgés et des cas psychiatriques, d'où d'ailleurs la question qu'on vient de poser, puisqu'on pourrait envisager une construction nouvelle dans les prochaines années. En outre, les besoins non satisfaits nous pousseront à trouver d'autres solutions, en particulier en ce qui concerne les services à domicile. Politiquement, l'hôpital régional de Delémont n'acquiert aucune particularité qui serait de nature à en faire autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un hôpital régional chargé de missions médicales particulières par l'État. Financièrement, la charge est supportable tant par les communes que par l'État, les premières pouvant d'ailleurs bénéficier d'une subvention fédérale. Sous réserve donc de la réponse qu'on donnera à la question que je viens de poser, et en conclusion, le groupe socialiste invite les députés à soutenir le projet non seulement aujourd'hui au Parlement, mais aussi auprès et avec le peuple jurassien lors de la consultation populaire que nous souhaitons la plus rapprochée en septembre prochain, si possible.
La parole est à M. Michel Curie.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le groupe Chrétien Social Indépendant est bien sûr acquis à l'idée d'une amélioration en profondeur de l'hôpital de Delémont. Je ne vais pas reprendre ici même les arguments de ceux qui m'y ont précédé et qu'on a pu lire dans le message. Mais pour qui se déplace quelquefois dans le bâtiment actuel, la rénovation s'impose d'emblée. Les insuffisances structurelles sont tellement criantes que le vote du crédit doit recevoir l'appui de tous. C'est ce que fera unanime le groupe chrétien social indépendant.
La parole est toujours aux représentants des groupes. Elle n'est plus utilisée. La discussion générale est ouverte. Elle n'est pas utilisée. Je clôt la discussion. Est-ce que monsieur le rapporteur de la commission de la gestion et des finances veut encore s'exprimer? Non. Monsieur le ministre Pierre Boya.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'interviens au nom du gouvernement pour vous recommander vivement l'entrée en matière du projet qui vous est proposé. Et je risque naturellement de pécher par répétition et redite, mais l'importance du projet est telle qu'il appartient à l'exécutif de s'allier à ce bel élan d'unanimité qui aura certainement des effets lorsqu'il s'agira de passer au vote populaire. Vous êtes appelé à vous prononcer sur un objet qui, depuis 1963, a mobilisé bien des énergies, provoqué bien des déceptions et, il faut bien le dire, encombré bien des tiroirs. Le projet que nous vous soumettons résulte en effet de tractations, d'études, d'expertises entamées voici 18 ans. L'historique figure d'ailleurs en page 3 du message. Il vous donne un aperçu sommaire de la longue marche des avant-projets et autres contre-projets qui, en janvier 1979, ont échoué sur les bureaux de la toute jeune administration jurassienne, plus particulièrement du service de la santé publique. Dès l'origine du projet, la nécessité d'un assainissement et d'une extension de l'hôpital régional a été admise par tous les organes consultés, qu'il s'agisse de la commission bernoise des hôpitaux ou de la Commission des problèmes hospitaliers de l'Assemblée constituante qui, dans son rapport d'octobre 1977, insistait sur l'urgence du projet. Malheureusement, pour des motifs que vous connaissez et qui viennent d'ailleurs d'avoir été évoqués, les autorités bernoises n'ont jamais donné suite aux revendications légitimes des responsables de l'établissement de Lémontin. Dès l'entrée en souveraineté du canton, les autorités jurassiennes ont donc repris le dossier considérant comme prioritaire et, fait nouveau, ont décidé de le traiter comme tel. Un nouvel et ultime examen de la situation n'a fait que confirmer les conclusions déposées par tous les organes qui, de 1963 à 1978, ont été appelés à se prononcer sur les projets successifs élaborés par les mandataires de l'hôpital régional. La justification de l'assainissement et de l'extension est donc clairement établie. Il s'agit premièrement d'améliorer les conditions d'accueil des patients et les conditions de travail du corps médical, du personnel soignant, en modernisant certaines structures désuètes, indignes d'un hôpital appelé à desservir une population de 35 000 habitants. Il s'agit ensuite d'étendre les possibilités d'accueil en procédant à l'extension et en portant à 263 unités la capacité d'un établissement qui, avec ses 195 lits, n'est plus en mesure de faire face à ses obligations. Le chapitre 3 du message traite spécialement des besoins en lit et conclut que l'extension projetée est une mesure urgente et minimale qui permettra de faire face à la demande dans deux secteurs essentiels, le secteur des malades aigus et des malades chroniques. Le tableau qui figure en page 11 du message vous fournit pour le surplus toutes les indications utiles quant à l'affectation des 263 lits de l'hôpital modernisé. Le message du 20 mai 1981 contient d'ailleurs tous les éléments qui permettent d'apprécier convenablement le problème. Estimation et inventaire des besoins, présentation du projet, aspect financier. Je ne développerai pas ces données dans ce propos introductif. Ils ont été abordés par ceux qui m'ont précédé ici et sont suffisamment explicités dans le message du gouvernement. Je me permets simplement d'émettre encore quelques considérations générales qui faciliteront la compréhension du plus important dossier de subventionnement soumis à votre appréciation depuis le début de la présente législature. Il faut dire tout d'abord que l'étude comparative effectuée par le service de la santé publique démontre à l'évidence un manque important de lits pour la prise en charge des malades chroniques et des malades psychiques. L'extension de l'hôpital régional de Delémont solutionnera les problèmes qui se posent au district quant à l'accueil des cas chroniques, à condition toutefois que l'unité gériatrique de 80 lits du Home-la-Promenade soit maintenue. En revanche, l'extension projetée ne résout pas le délicat problème posé par les cas psychiatriques actuellement assumés par la clinique de Bellay et d'autres institutions spécialisées. Dans ce secteur, dont les besoins sont estimés à quelque 160 lits, nous ne disposons d'aucune structure propre et nous dépendons totalement d'établissements extérieurs dont les possibilités d'accueil pourraient devenir aléatoires dans un avenir assez rapproché. Il s'agit donc là d'un second dossier dont l'importance ne doit pas échapper et sur lequel vous serez probablement appelé à vous prononcer dans des délais assez rapprochés. Une commission chargée de l'étude des structures psychiatriques est d'ailleurs à l'œuvre et va incessamment déposer ses conclusions. Je rappelle enfin qu'un troisième dossier occupe présentement les responsables de la santé publique, les communes et les associations professionnelles concernées. Il s'agit des soins à domicile, expressément mentionnés à l'article 27 de la Constitution. Ce domaine doit être abordé avec circonspection. Il nécessite des études poussées, mais le miracle des soins à domicile ne va pas résoudre naturellement le problème aigu des hospitalisations et en particulier des hospitalisations dans le district de Delémont. Je tenais à émettre ces quelques considérations générales pour mieux situer le problème dont nous avons à nous occuper aujourd'hui. L'indispensable assainissement et agrandissement de l'hôpital régional de Delémont est le premier élément d'une série de mesures visant à résoudre le problème général du manque de structure dans le secteur de la santé publique et notamment du manque de structure hospitalière. J'en viens à la question posée par le rapporteur du groupe socialiste, M. le député Turberg. Nous avons effectivement envisagé, dans le cadre du service de la santé publique, la possibilité de construire un nouvel établissement. Nous y avons renoncé pour les raisons suivantes. Tout d'abord, une nouvelle étude aurait repoussé à quelques bonnes années le projet qui doit absolument être réalisé dans les meilleurs délais. En plus de cela, nous n'avions pas encore de certitude en ce qui concerne les structures psychiatriques dans le canton. On nous a avisé, on nous a annoncé que nous devrions prendre des dispositions pour pallier à une fermeture inéluctable de l'établissement de Belley, mais sur ce point-là, et officiellement, rien ne nous est connu. Nous ne pouvons donc pas prévoir que les termes annoncés, on disait 85, seront tenus. Il n'y a absolument rien de déterminé de ce point de vue-là. Sur le plan des coûts, nous avons estimé, une estimation grossière, qu'un nouvel établissement reviendrait à quelque 60 à 70 millions de francs. Cela ne correspondrait pas, en tout cas pour l'instant, aux possibilités financières du canton. Et nous pensons que le projet tel que conçu par le syndicat des communes de Delémont est à même de résoudre les problèmes les plus immédiats et ne va pas contrecarrer ce qu'il faudra prévoir à l'avenir pour les problèmes qui se poseront encore. Je pense dès lors que la solution qui vous est présentée aujourd'hui présente l'avantage de pouvoir être réalisée dans des délais très brefs, présente aussi l'avantage de correspondre à nos possibilités financières dans l'immédiat et présente encore l'avantage de ne pas contrecarrer des projets futurs dans les autres domaines de la santé publique, en particulier dans le domaine de la psychiatrie. Je tiens encore à vous signaler que c'est bien le syndicat de communes qui est le maître de l'ouvrage. Malgré cela, et en vertu du fait que l'État est autorité de surveillance et de planification en matière de santé publique, le dossier a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des services de l'État. Le service de la santé publique y a consacré de nombreuses heures. Le service des constructions s'en est également occupé. Le service de la trésorerie générale a donné son point de vue, ainsi que le service des communes. Le travail a donc été fait très sérieux. Les commissions parlementaires ont eu l'occasion également de se prononcer en toute connaissance de cause. Les rapports qui vous ont été présentés aujourd'hui par vos collègues députés, que ce soit M. Raccordon qui intervenait comme porte-parole de la commission de gestion et des finances, ou le Dr Gigon comme porte-parole du PDC, mais aussi comme président de la commission de la santé publique, ont pu certainement vous convaincre que les problèmes avaient été examinés avec sérieux. En ce qui concerne la réalisation, l'État ne sera pas mis totalement à l'écart, je tiens encore à le signaler. Il n'aura pas qu'à payer les 70% du coût total de réalisation, il sera associé à la réalisation du projet par l'intervention du service de la santé publique et en particulier par M. Francis Huglet, qui fera partie de la commission de construction qui a été mise sur pied par le syndicat des communes. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les éléments que je tenais encore à développer ici. Je vous prie de réserver bon accueil au projet qui vous est présenté et je vous invite, au nom du gouvernement, à voter cette entrée en matière.
C'est ce que nous allons faire immédiatement. Les députés qui acceptent l'entrée en matière sur l'arrêté sont priés de le manifester par un lever de main. C'est une unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la discussion de détail. Article 1er, alinéa 1. Discussion. Article 2. Article 3. Pardon, alinéa 2. Alinéa 3. Article 2, alinéa 1. Alinéa 2. Alinéa 3. Article 3. Article 4. Article 5. Article 6. Article 7, alinéa 1 et 2. Les députés qui acceptent l'arrêté tel qu'il nous est présenté concernant l'octroi d'une subvention au syndicat de communes du district de Delémont pour les travaux d'assainissement et d'agrandissement de l'hôpital régional sont priés de le manifester par un lever de main. C'est également une unanimité. Je vous remercie. Cet arrêté est ainsi adopté. Il n'était pas, mesdames et messieurs, dans mes intentions de vous proposer une pause, mais nous sommes en présence de deux résolutions qui ont été déposées sur mon bureau, et je crois que la pause sera la bienvenue pour discuter de ces résolutions. Nous allons donc reprendre nos travaux à 10h15. Auparavant, je m'excuse de vous demander encore une minute d'attention. Hier, l'intéressé n'a pas pu se prononcer sur la réponse à la question écrite numéro 98, étant donné qu'il n'avait pas reçu le courrier. Monsieur le député Gerbray, aujourd'hui présent, et je profite de lui poser la question, est-il satisfait de la réponse donnée par le gouvernement à sa question? Pas satisfait. Nous aurions ainsi liquidé les questions écrites qui étaient à l'ordre du jour. Alors rendez-vous à 10h15, mesdames et messieurs. Nous reprenons nos délibérations. La presse de ce matin nous apprend le décès de M. Gilbert Schaffner, qui est le frère de notre collègue Adrien Schaffner. Au nom du Parlement, je lui présente toute notre sympathie. Mesdames et messieurs, je vous propose l'ordonnance suivante. Nous allons passer les points 18, 19, 20 et 21, et ensuite nous débattrons des résolutions. Y voyez-vous un inconvénient? Non. Alors nous abordons le point 18, motion numéro 77, droit de récolter sur la voie publique des signatures pour des initiatives populaires déposées par le Parti chrétien social indépendant et dont le responsable est M. Victor Giordano, à qui je donne la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, aux considérations contenues dans le texte même de la motion que j'ai déposée au nom du groupe chrétien social indépendant, je puis ajouter que, dans le canton de Zurich, à la suite de divers recours, le législateur cantonal a introduit une norme dans la loi sur les votes et élections. Cet alinéa stipule que la récolte de signatures pour des initiatives et référendums est autorisé aux abords des locaux de vote dans la mesure où les votants ne s'en trouvent pas gravement dérangés. Les considérants du jugement d'un recours fait devant le tribunal fédéral fondé sur cette disposition sont très clairs. Dans la mesure où la liberté de mouvement des votants n'est pas entravée et dans la mesure où ils sont invités à signer des initiatives ou référendums dans des formes polies et convenables, le droit de récolter des signatures ne doit pas être restreint. Les citoyens doivent notamment être capables de ne pas subir l'argumentation qui peut leur être débitée pour les inciter à signer. En raison des prescriptions relatives à l'exercice des droits politiques, les dispositions communales éventuelles prises ne peuvent en aucune manière restreindre le libre exercice de ce droit politique. Au cas d'espèce, la présence de citoyens récoltant des signatures à une dizaine de mètres de l'entrée du local de vote ne constituait en aucune manière une entrave à la liberté de déplacement des votants. C'était bien une forme du libre exercice des droits politiques. C'est dans ce sens que j'ai invité le gouvernement à édicter des prescriptions et je lui sais gré d'avoir accepté cette motion qui a surtout une valeur de principe applicable sur l'ensemble du territoire cantonal. J'espère que les députés adopteront la même attitude et je vous en remercie.
La parole est à Monsieur le ministre Pierre Boyat.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement a déjà avisé, en ce qui concerne cette motion, Il accepte d'édicter des prescriptions précises quant à l'usage des droits politiques. Voilà donc dans quels termes cette motion est acceptée. En ce qui concerne les motifs, les considérants et le cas d'espèce relaté dans le cadre du développement de la motion, le gouvernement tient tout de même à émettre des réserves d'usage. Mais en ce qui concerne le but recherché par la motion, le gouvernement se déclare d'accord de donner des directives.
La motion est acceptée par le gouvernement. Est-elle combattue par le Parlement? Ce n'est pas le cas. Demande-t-on l'ouverture de la discussion? Non. Monsieur le motionnaire, désire-t-il encore s'exprimer? Ce n'est pas le cas. Nous allons passer au vote. Les députés qui acceptent la motion numéro 77 sont priés de manifester par un lever de main. C'est une unanimité. Je vous remercie. Point 19, motion numéro 81, absence à un bureau de vote sans excuse valable, déposée par le groupe libéral radical, dont le responsable est M. Jean-Claude Chalère, que je prie de monter à la tribune pour le développement.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, la motion que j'ai déposée le 30 avril ayant été acceptée par le gouvernement, je m'abstiendrai, vous le comprendrez aisément, de vous imposer un développement fastidieux. D'ailleurs, le texte de cette intervention est assez clair. Il suffit donc de combler une lacune due au fait que notre législation sur les droits politiques nouvelle a entraîné l'abrogation d'anciens textes découlant de lois que notre République et canton n'a pas reprises. Je remercie le gouvernement d'avoir accepté ma motion et d'avoir ainsi compris le sens de cette intervention et je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à en faire de même. D'avance, je vous remercie et reste à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles que vous pourriez me poser.
Monsieur le ministre Pierre Boyat, accepté sans commentaire. Le Parlement s'oppose-t-il à la motion? Demande-t-on l'ouverture de la discussion? Nous allons nous prononcer par un vote. Les députés qui acceptent la motion numéro 81 sont priés de la manifester par un lever de main. Je vous remercie, une majorité évidente. Nous passons au point 20, interpellation numéro 40, réalisation des tâches de l'État fixées par la Constitution jurassienne, déposée par le Parti ouvrier populaire et combat socialiste, responsable M. Pierre Guignat, qui a la parole.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous m'excuserez de parler de choses un peu moins concrètes que l'encouragement au Covidé et puis aux questions qui ont trait au terrain en pente. Il s'agit des tâches de l'État. Et je voudrais, au début de ce développement, rendre tout de suite à la femme de César ce qui lui appartient. L'interpellation que j'ai l'honneur de développer devant vous aurait dû l'être par Marie-Yvonne Schindelholz, députée suppléante qui en est l'auteur. Le règlement qui nous régit encore ne l'a pas permis. Le prochain l'autorisera. C'est aussi la preuve que quand on s'obstine, même quand on est une femme, on réussit à se faire donner raison. L'interpellation sur la réalisation des tâches de l'État fixée par la Constitution jurassienne est en quelque sorte l'enfant légitime de la réponse donnée à une question sur l'application du principe à travail égal, salaire égal par le gouvernement. Le gouvernement, dans cette réponse, limitait clairement l'application de ce principe au secteur public. Et sous un certain angle, cette réponse pouvait et peut apparaître même comme un encouragement à maintenir des discriminations salariales, notamment dans le secteur privé, un encouragement, pour parler net, au patronat. Or, la Constitution jurassienne est parfaitement claire sur ce point et ce qui vient de se passer au niveau fédéral avec une récente votation populaire lui apporte une justification et une légitimation supplémentaire si cela était nécessaire. À l'inverse, il faut bien constater que le gouvernement laisse apparaître, et c'est à l'évidence ce qui ressort de la réponse qui a été faite à la question posée par la députée suppléante Marie von Schindelholz, le gouvernement laisse apparaître qu'il existe dans la Constitution des articles impératifs, applicables par tous, sous peine de sanctions, des articles qui ne peuvent être transgressés, et d'autres qui ne sont que des postulats, ces postulats permettant d'affirmer, d'ailleurs sans rire et en toute bonne foi, que le Jura s'est donné la Constitution la plus progressiste des temps modernes. Nous ne sommes pas d'accord avec cette double attitude. Noblesse oblige, messieurs, et le souci de la justice sociale encore plus, ajouterai-je. Notre interpellation rappelle d'ailleurs, non sans raison, le message adressé par l'Assemblée constituante du 3 février 1977 et qui précise que le législateur, les dirigeants et les magistrats se voient chargés d'adopter les mesures nécessaires à la réalisation de tels buts, c'est-à-dire aux buts fixés par les articles inscrits dans la Constitution. Pour l'instant, nous avons malheureusement l'impression que l'on tourne le dos à cette intention première des constituants, en donnant d'ailleurs raison au parti radical et à ses réticences au moment où les postulats que j'évoque ont été inscrits dans la Constitution du Jura. Nous savons parfaitement que les problèmes de société, les privilèges établis, eux-mêmes générateurs de préjugés, ne peuvent être écartés par des décrets, et aussi que les changements nécessaires sont l'aboutissement d'affrontements, de luttes, d'un long processus. La Constitution progressiste, dans son essence et à la mesure de notre société, nous apparaît comme un levier dans les luttes que j'évoque. Elle témoigne en tout cas d'un ensemble de notions qui hier étaient contestées ou traitées d'utopiques et qui sont considérées aujourd'hui comme tout à fait raisonnables, au point de figurer dans une charte fondamentale acceptée, en principe du moins, par tous les courants politiques et en tout cas par le peuple lui-même. Ce que nous demandons au pouvoir, et cela conformément aux promesses de la Constituante, c'est à défaut de régler les problèmes d'un seul coup d'un seul, que celui-ci, que ce pouvoir manifeste à toute occasion la volonté politique d'appliquer l'esprit et la lettre de la Constitution, non seulement dans ses parties qui reflètent les intérêts de ce qu'il faut bien appeler la classe dirigeante, mais aussi et surtout dans les domaines où les inégalités et les injustices doivent être réduites. Aujourd'hui, le débat a été amorcé par l'interpellation de Marie von Schindelholz sur le rôle de la condition féminine que nous souhaitons naturellement renforcer. Mais il est clair que ce débat doit déboucher sur toutes les autres questions à propos desquelles la volonté de faire passer dans la réalité les principes constitutionnels n'est malheureusement pas encore évidente.
Monsieur le ministre Pierre Boyat.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, dans un premier temps, le gouvernement avait envisagé de répondre à une séance ultérieure à cette interpellation. Mais comme certains événements se sont produits, notamment le vote historique du 14 juin, comme les développements que vient d'émettre ici, monsieur le député Guignat, fixe le cadre de la matière d'une manière précise, je me vois dans l'obligation de lui répondre immédiatement pour faire en sorte que si le débat doit s'instaurer, il soit vivant, il soit normal, plutôt que de renvoyer ultérieurement une affaire qui risque de perdre de son actualité. Effectivement, le POP nous a souvent reproché, soit par voie d'interpellation parlementaire, soit par la voie de son hebdomadaire, de considérer qu'il y a deux sortes de normes constitutionnelles. Certaines donneraient droit à une possibilité d'intervention directe, d'autres n'étant effectivement que des vœux pis. Eh bien, je dois effectivement confirmer, à la suite d'un professeur de droit qui n'est pas qualifié de défenseur de l'ordre établi, de l'ordre bourgeois, à savoir le professeur Philippe Bois, que les normes constitutionnelles n'ont pas toutes les mêmes valeurs. Certaines donnent la possibilité aux citoyens de réclamer l'attribution de droits subjectifs, d'autres sont des normes attributives de compétences, et certaines n'ont effectivement que valeur de programme. Je vous renvoie, en ce qui concerne cette opinion du professeur Philippe Bois, aux ouvrages qu'il a commis en matière de droits sociaux. Ceci étant précisé, j'aimerais tout de même rassurer l'interpellateur et lui dire que, en matière d'égalité des droits, le gouvernement se trouve, après le vote du 14 juin, dans une position différente de celle qu'il avait avant ce vote historique. Non seulement le gouvernement jurassien, mais le gouvernement fédéral et le législateur auront la possibilité de faire en sorte que ce principe à travail égal, salaire égal, entre non seulement dans la réalité de la fonction publique, mais également dans la réalité du secteur privé. Sur ce plan-là, il reste encore à faire certains distinguos de compétences. Le gouvernement jurassien ne peut pas empiéter sur les compétences du législateur fédéral. Le gouvernement jurassien peut intervenir, et il le fera, pour que les discriminations disparaissent dans la fonction publique. Il peut intervenir, et il le fera, pour qu'au niveau des conventions collectives, les discriminations disparaissent aussi. Il peut intervenir aussi, et il le fera, auprès des autorités fédérales, pour que la législation qui fera suite à la norme constitutionnelle adoptée le 14 juin, puisse entrer dans la réalité des faits. Je crois donc qu'une hypothèque a été levée à la mi-juin et je puis vous assurer que le gouvernement, dans la sphère de ses compétences, s'attachera à faire en sorte que le principe à travail égal, salaire égal, soit pleinement respecté.
Monsieur l'interpellateur, peut-il se déclarer satisfait de la réponse du gouvernement ? Sans interrompre.
Très satisfait, je prends les promesses de M. le ministre.
Je vous remercie, Monsieur Guignat. Désire-t-on l'ouverture de la discussion ? Ce n'est pas le cas. L'interpellation est ainsi traitée. Nous passons au point 21, recours en grâce numéro 180. Nous traiterons ce recours en grâce sous forme d'arrêté et je vous recommande de vous en tenir uniquement à la numérotation qui détermine ce recours en grâce. Le débat d'entrée en matière est ouvert. Je donne la parole à Madame Madeleine Kolr, présidente de la Commission de la Justice et des Pétitions.
Thank you.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission de la Justice et des Pétitions a été saisie d'un recours en grâce conformément à l'article 41 du règlement du Parlement. Un rapport a été établi et vous a été transmis. Vous avez donc pu prendre connaissance de l'identité du requérant et je n'y reviens donc pas. Je reprends l'essentiel de ce rapport et vous rappelle d'abord les faits brièvement. Le 16 novembre 1979, un tribunal d'un des districts jurassiens a condamné M. X à une peine de 10 jours d'emprisonnement, à une amende de 400 francs et aux frais judiciaires d'un montant de 276 francs. M. X a en effet été reconnu coupable d'infraction à la loi sur la circulation routière, infraction qu'il a commise le 18 juillet 79 entre 7h et 8h30 du matin en circulant avec un motocycle d'une cylindrée inférieure à 125 cm3 malgré un retrait de permis. Le véhicule ne portait pas de plaque de contrôle, il n'y avait pas de permis de circulation, ce véhicule n'était pas couvert par une assurance en responsabilité civile. M. X a effectué des circuits inutiles dans une localité et il n'a pas avisé la police à la suite d'un accident. Immédiatement après le prononcé de ce jugement, M. X interjette appel, de même que le procureur de la République. C'est donc la Cour pénale du tribunal cantonal du Jura qui est saisie du dossier, qui rend son jugement le 17 janvier 80 et qui condamne M. X à une peine de 25 jours d'emprisonnement, antérieurement 10 jours, et à une amende de 400 francs. Le 30 janvier 80, M. X s'est pourvu en nullité auprès du tribunal fédéral. Et c'est par un arrêt du 29 mai 80 que la Cour de cassation pénale du tribunal fédéral a déclaré le pourvoi en nullité irrecevable et mal fondé. La Commission de la justice et des pétitions, après avoir consulté les différents dossiers, constate que, premièrement, condamné à 4 reprises dans une période de 2 ans à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 5 mois, M. X est un récidiviste qui commet toujours les mêmes délits, ce qui aggrave sa situation. Secondo, au vu du dossier, M. X ne donne nullement l'impression qu'il ne récidivera pas une nouvelle fois. Sa requête ne contient aucun mot quant à sa volonté de respecter dorénavant les lois. Il n'exprime aucun repentir ni aucune promesse d'amélioration de son comportement pour l'avenir. Bien que des dispositions légales en vigueur ne contiennent aucune norme relative à la grâce, certains principes ont pourtant été élaborés par les autorités fédérales et cantonales. Et notre commission s'est inspirée de ces principes et elle a estimé que, 1. Afin de sauvegarder le principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité exerçant le droit de grâce n'a pas à réexaminer l'état des faits ou l'administration des preuves du tribunal. 2. Les récidivistes ne peuvent en général pas être mis au profit d'une mesure de clémence, en particulier ceux qui renouvellent toujours les mêmes délits. 3. Une personne recourant en grâce devrait, au vu de son dossier, manifester sa volonté de ne pas récidiver. 4. La grâce est une mesure exceptionnelle qui ne peut être appliquée que dans des circonstances extraordinaires. Le cas qui nous occupe ne satisfait pas à ce critère. En conclusion, la Commission de la justice et des pétitions vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, de rejeter le recours en grâce formé par M. X en date du 6 octobre 80 et par conséquent d'accepter l'arrêté qui vous sera proposé maintenant.
Merci Madame Kohler. Y a-t-il une unanimité dans votre commission? Je vous remercie. La parole est au représentant des groupes. Elle n'est pas utilisée. Les autres membres de la Commission de la justice et des pétitions qui désirent s'exprimer? Il n'y en a point. La discussion générale est ouverte. Elle n'est pas utilisée. Je clôt la discussion. Je donne la parole à Monsieur le ministre Pierre Boyat, qui ne désire pas s'exprimer. Nous allons donc nous prononcer sur l'entrée en matière. Les députés qui acceptent l'entrée en matière sur l'arrêté qui vous est proposé sont priés de le manifester par un lever de main. Je vous remercie. Nous allons ouvrir la discussion de détail. article par article, article premier, discussion, ne pas utiliser, article 2, alinéa 1 et alinéa 2. Je titre et préambule. Je vous prie donc, mesdames et messieurs les députés, de vous prononcer par un vote sur l'arrêté concernant le recours en grâce numéro 1-80. Les députés qui l'acceptent dans la teneur qui vous est proposée sont priés de manifester par un lever de main. Je vous remercie, l'arrêté est ainsi accepté. Comme je vous l'ai proposé, nous allons maintenant aborder les deux résolutions qui ont été déposées sur le bureau du président. Avec l'accord des présidents de groupe, ces deux résolutions seront opposées. Je me suis encore renseigné auprès de notre ancien président, M. André Catin, qui me dit que nous avions déjà eu le cas où deux résolutions étaient présentées et elles avaient été opposées. Je pense que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que cette procédure soit appliquée. Ce n'est pas le cas. Je les prends dans l'ordre d'arrivée. Tout d'abord, celle du groupe chrétien social indépendant, et je demande à M. Michel Gury de bien vouloir la développer.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, la résolution du Parti chrétien social indépendant est claire et elle est courte. Ce sont deux avantages incontestables. Elle ne mérite donc pas un long développement. Elle s'élève tout simplement contre une décision préfectorale absurde qui, pour nous, est une véritable insulte. Mais pour répondre à certains vœux émis ici même lors de la pause, je vous propose deux petites modifications. Paraît-il qu'il ne faut pas faire de publicité au préfet en question, alors je vous propose à la cinquième ligne de modifier quelque peu le texte et vous propose ceci. Les députés condamnent énergiquement la décision préfectorale. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Ensuite, tout à la fin, on demande aussi une allusion à la constitution jurassienne, ce qui me paraît logique. Alors je vous propose de terminer ainsi, conformément aux constitutions, au lieu de à la, donc aux constitutions fédérales et jurassiennes et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. S'agissant de la résolution radicale que nous venons de recevoir, il faut tout d'abord relever que...
Monsieur Gury, je m'excuse, on développe la résolution. Est-ce que vous pourriez peut-être intervenir dans la discussion?
Bon, bonsoir, M. Gall. C'était pour éviter un aller-retour avant l'horaire cadencé.
Ça me paraît plus clair de nous en tenir au développement. Je vous remercie de votre compréhension. Nous passons maintenant au développement de la résolution du groupe libéral radical. Je donne la parole à M. Gaston Braille.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, comme vous l'aurez constaté par le texte qui vous est soumis, le groupe libéral radical souscrit totalement à l'esprit de la résolution présentée par le groupe PCSI. Pourtant, nous estimons que la résolution doit aller plus loin et toucher à l'ensemble des aspects liés aux problèmes évoqués. Dès lors, le texte que notre groupe vous présente répond mieux à ce souci. En conséquence, mesdames et messieurs les députés, nous vous invitons à y souscrire.
Voilà, le développement étant fait, la discussion est ouverte. Monsieur Michel Gury.
Je serai bref. Dans la résolution radicale, il s'agit d'abord de ne pas confondre les actes d'une autorité dûment établie avec les propositions d'un mouvement politique. Personne n'est obligé de se conformer aux souhaits du mouvement auquel il se réfère la résolution radicale. Il en va tout autrement des décisions du préfet Aoury qui ont, elles, force de loi. Et puis, si je reprends le texte de la résolution radicale, il n'a jamais été question d'interdire quelque part le drapeau suisse. Il s'agit certainement là d'un abus de langage involontaire du PLR. Cette erreur d'interprétation, de même que l'imprécision du texte radical qui confond allègrement les actes des autorités avec ceux d'un mouvement politique, font que je vous demande au nom de la clarté d'accepter la résolution numéro 5.
Monsieur Martin Huvray a la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le groupe démocrate chrétien soutient la résolution qui nous a été proposée hier. Les remous suscités par ces interdictions, outrageantes et très irrespectueuses des libertés fondamentales, sont révélateurs d'un malaise profond et réel. Les Jurassiennes et les Jurassiens, qu'ils habitent à l'intérieur ou à l'extérieur de la République, ont reçu comme un véritable affront le fait que leur emblème soit interdit sur un territoire, sur une partie de leur territoire. La résolution numéro 5 proposée au Parlement s'inscrit parfaitement dans la ligne de la réaction du gouvernement jurassien. Nous vous demandons donc d'y souscrire sans réticence.
Monsieur Jean-Louis Vernet.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, la décision préfectorale rendue à Moutier par le préfet Aoury fait partie du système de l'absolutisme démocratique qui fait fi du respect des minorités et qui est si cher au gouvernement bernois et à ses représentants, au sein desquels le préfet Aoury s'est souvent distingué. Ce magistrat a fréquemment rendu des décisions sans faire preuve de tout l'esprit d'indépendance requis. Vu ce qui précède, notre groupe peut sans autre souscrire à la résolution déposée par le PCSI, amendée à 3 reprises, amendement que notre groupe souhaitait d'ailleurs. Et comme l'a dit le rapporteur du groupe PCSI, si notre préférence va à cette résolution plutôt qu'à celle déposée par le PLR, c'est qu'il est nécessaire de faire une différence entre l'acte d'autorité rendu par le préfet Aoury et la politique définie par le Rassemblement jurassien, association de droit privé, qui, il faut l'admettre, a dû souvent bousculer l'adversaire, faute de compréhension. Je me rappelle d'une phrase prononcée par M. Roger Chafter à une fête de la jeunesse à Porrentruy, et qui disait « Lorsqu'on frappe à une porte et qu'on ne veut pas l'ouvrir, il faut parfois l'enfoncer ». Eh bien, cette politique du Rassemblement jurassien, je peux la cautionner avec une seule réserve, c'est qu'il serait nécessaire d'en changer le territoire d'action stratégique, vu l'entrée en souveraineté de la République et canton du Jura. Car je crois que notre participation à l'œuvre de réunification consiste à faire de notre État un État parfait si possible, tant au niveau de nos institutions qu'au niveau de nos relations extérieures. Ceci étant dit, notre groupe profondément attaché à l'idéologie libérale, qui veut que le fait d'arborer un emblème consiste à exercer une liberté individuelle et que cette liberté individuelle prime la soumission d'une minorité à une majorité, eh bien notre groupe votera la résolution du PCSI, où il est fait mention d'une phrase extrêmement importante, je cite, « Le Parlement de la République et canton du Jura en appelle aux autorités cantonales et fédérales pour que soit respecté partout en Suisse le droit de communiquer ses pensées, etc. »
La discussion continue. Monsieur Bernard Varin.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au début du siècle, un pasteur de Saint-Imier déclarait qu'il fallait insuffler un sang saint et allemand au peuple jurassien. Les pasteurs se suivent et, pardon pour les autres, Dieu merci, ce n'est pas pour tous que je dis ceci, les pasteurs se suivent et certains se ressemblent. Je crois que tout le tapage qui a été fait autour de cet incident de Moutier a trop duré. Cet incident dû à la colère bien compréhensible d'une jeunesse qui, comme nous tous, n'accepte pas l'interdiction du drapeau jurassien. Il faut le rappeler, je crois que c'était rappelé ici par tout le monde, que cette interdiction a été décrétée par le représentant du gouvernement bernois. Elle a été calculée et préméditée. La réaction qu'elle a engendrée a l'avantage d'être avant tout une réaction émotionnelle. Mettre sur le même pied une réaction populaire et une décision gouvernementale est pour nous aussi inacceptable. C'est la raison pour laquelle, sans nous prononcer sur l'interdiction ou la destruction de drapeaux suisses et bernois, nous voterons pour la résolution du PCSI qui a l'avantage de se prononcer sur les actes de l'autorité cantonale bernoise plutôt qu'aux effets qu'elle a provoqués.
La discussion continue. Et Monsieur Braillet.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je ne voudrais tout de même pas qu'on ait l'impression que nous ne sommes pas d'accord avec le fond. Nous aussi, nous estimons que le drapeau jurassien mérite d'être aussi haut que tous les autres drapeaux des cantons suisses. Nous aussi, nous estimons que nous, on n'a pas le droit ailleurs de le minimiser et de le mettre précisément dans un tiroir. Nous aussi, nous sommes pour qu'il flotte haut, partout, et dans le Jura et en Suisse. Et ceci doit être dit. Je ne voudrais pas tout de même que l'on croie que nous ne sommes pas précisément de cette opinion et de cet avis. Dès lors où nous avons accepté dans notre Constitution que ce drapeau soit le drapeau de notre canton, nous avons été ceux qui l'avons porté partout où nous avons pu et qui le défendront. Je considérais que ceci devait être dit. Il n'en reste pas moins vrai, mesdames et messieurs, qu'au nom du libéralisme auquel M. Verly a fait allusion et à laquelle nous puisons nos sources, nous sommes de ceux qui défendons les libertés individuelles et les libertés fondamentales. Et nous voulons en assurer la sauvegarde partout, y compris à l'extérieur de notre canton, mais aussi dans notre canton. Aux sources du radicalisme, nous avons puisé la tolérance. Et là aussi, mesdames et messieurs, nous admettons que vous ayez des idées différentes des nôtres, ou dans le fond ou dans la forme, mais lorsque le fond est le même, nous réjouissons d'être avec vous. Mais ce que nous voulons, c'est que nous considérons que pour apporter un jugement de valeur à un problème, il s'agit d'en faire une synthèse solide, et en cela, de ne négliger dans notre analyse aucun élément du problème. Car nous avons indiscutablement des comptes à rendre et au peuple et aux citoyens. Et c'est uniquement dans cet esprit-là que nous vous soumettons la résolution que vous connaissez. Dans cet esprit, nous vous demandons d'y souscrire. Et nous serions très heureux que parmi vous, certains puissent nous suivre. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour ce vote, nous vous demandons de le faire au bulletin secret.
La discussion continue, M. Roland Béglin.
Mesdames et messieurs, contrairement à ce que dit M. Gaston Braillet, le texte que nous soumet son groupe n'est pas une analyse, Il est d'ailleurs trop bref pour pouvoir l'être. Si on le relit, on se rend compte que c'est un texte qui a pour but d'induire en erreur. Des drapeaux jurassiens et bernois qui disparus, volés, détruits, depuis que dure la question jurassienne, il y en a eu beaucoup. Hélas, il y en aura encore. Si chaque fois une autorité, un gouvernement, un parlement voulait prendre position, il y aurait beaucoup de travail. Je pense qu'un parlement n'a pas à s'occuper de ces choses-là. Lorsqu'il y a des attentats à la propriété, cela relève des tribunaux et cela tombe sous le coup du code pénal. L'affaire qui nous occupe ici est toute différente, on l'a déjà dit. Il s'agit d'un acte d'une autorité. D'un acte d'une autorité qui s'appelle le préfet de Moutier, qui s'appelle le gouvernement bernois derrière lui, et qui s'appelle, je le souligne, le tribunal fédéral. Et c'est grave. Le tribunal fédéral, par un arrêt, a approuvé la décision du préfet Aoury. Nous devons rester sur ce terrain-là. Or, si on examine les points 1, c'est-à-dire les alinéas 2 et 3 du projet du groupe libéral radical, on se rend compte que tout est mêlé. Il est dit presque en même temps, il a été informé d'agissements. C'est un peu mal rédigé, je pense que ça a été fait très vite. Visant à s'opposer au déploiement du drapeau suisse en terre jurassienne et d'intention concernant la célébration de la fête du 1er août. Qui peut s'opposer? Personne, mais on peut demander. Lorsqu'il s'agit de faire une démonstration de solidarité et pour l'honneur du drapeau jurassien, de ses autorités qui n'ont pas le droit de défiler à Moutier, on peut demander aux gens de hisser tel ou tel emblème. C'est une question de choix. Il n'est pas question de forcer quelqu'un et chacun est libre de répondre ou non à une telle demande. En ce qui concerne le 1er août, des intentions, des fêtes du 1er août dans le Jura, il n'y en a plus beaucoup. Chacun est libre d'en organiser, on est aussi libre d'aller y dire ce qu'on veut, si par hasard on est orateur. Au troisième alinéa, on lit ceci, les députés jurassiens s'insurgent contre le fait, je dis bien le fait, qu'un emblème cantonal reconnu officiellement et, à plus forte raison, l'emblème fédéral puisse être interdit sur une quelconque partie du territoire suisse, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du canton du Jura. On laisse entendre, on dit même clairement, que l'emblème fédéral est ou pourrait être interdit. Quel serait l'effet sur des lecteurs pressés, sur des lecteurs lointains à la lecture d'une résolution comme celle-là? Il n'a jamais été question d'interdire le drapeau fédéral. Personne ne le fera. Donc, habilement, je me demande encore si c'est habile, on a voulu amalgamer deux choses. L'emblème cantonal, le nôtre, qui a été interdit avec menace d'amende ou de prison à Moutier, et l'emblème fédéral qui, je le répète, personne n'a interdit et que personne n'interdira jamais. Un tel texte est de nature à égarer l'opinion publique et cela au détriment du Jura. Je vous demande de ne pas le voter.
La discussion continue. Monsieur Michel Gurie.
En vertu de l'article 84, alinéa 3 et alinéa 4 du règlement, et vu le côté émotionnel du sujet que nous discutons aujourd'hui, je demande le vote par appel nominal.
La discussion continue. Elle n'est plus utilisée. Je vous rappelle la teneur de l'article 84. Alinéa 4. Lorsque le vote par appel nominal et le scrutin secret sont demandés pour un même objet, le Parlement choisit le mode de vote au bulletin secret. Il faut que 20 députés demandent le vote nominal. Alors, je pose la question au Parlement. Les députés qui sont en faveur... Les députés qui sont en faveur du vote nominal veulent bien le manifester par un lever de main. Les 20 sont là, messieurs les scrutateurs. J'aimerais quand même un contrôle. Alors, 32 députés le demandent, donc 33, pardon. Donc, il est satisfait aux teneurs de notre règlement. J'avais également, je le précise, une liste de 15 députés qui demandaient le bulletin secret. Donc, les deux demandes sont valables. Nous allons nous prononcer maintenant sur le mode de vote par bulletin secret. Monsieur Gaston Braillet, je m'excuse. Vous avez la parole. Je n'ai pas clos la discussion, non.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, le bulletin secret que vous avez maintenant vous permettra de choisir le mode par lequel vous allez vous exprimer sur la résolution. Autrement dit, Monsieur le Président, il s'agit de mettre sur le bulletin secret ou bien appel nominal, ou bien vote au bulletin secret.
Tout à fait d'accord, Monsieur Braillet. Par mesure de simplification, je pense que si vous mettez secret ou nominal, ça sera valable. Je prie les scrutateurs, enfin ils ont commencé leur travail. Je clôt maintenant la discussion et nous passons au scrutin. Mesdames et messieurs, voici le résultat du vote. Bulletin délivré 59, bulletin rentré 59, bulletin blanc 3, bulletin nul 1, bulletin valable 55, majorité absolue 28, le vote nominal est choisi par 35 suffrages contre 20 au vote secret. Nous allons donc maintenant voter par appel nominal. À l'appel de votre nom, mesdames et messieurs les députés, vous répondrez simplement résolution 5 ou 6 pour, disons, simplifier les opérations. Donc le secrétaire va procéder à l'appel nominal.
Von Almen-Clair. Balmer René. Béglin Roland. Berthold Pierre, Biedermann André, Bila René, Boya Henri, Bouille Hubert, Braillet Gaston, Bréchet Marcel, Brognard Jacques, Bourcard Bernard, Catin André, Serge Paul, Charmillon Louisville, Conti Jean-Michel, Cortin Martial, 5, Dicloire Martel, Dominique Lemouille, 5, Farah Henri, 6, Fleur Richard, 5, Fluguier Michel, 6, Fornazé Raymond, 5, Frédéric Joubert, 5, Frigo,
Gigon Jean-Pierre.
5.
Gilbert Victor.
5.
Guy Martin.
5.
Guy Michel.
5.
Offrey Lévis.
5.
Jean-Guy Bernard.
5.
Colère Madeleine.
5.
Colère Martin.
6.
La Stallone.
5.
Merci.
5.
Miguel Fritz.
6.
Eugène Martin.
5.
Petit Biafou.
5.
Que nos gens.
5.
Raconte-moi ça.
5.
Riacel.
5.
Roger François.
5.
Chalet Raffou.
5.
Chalet Pény.
5.
Chalet Jean-Claude.
6.
Stouty Gabi.
6.
Turbet Marcel.
5.
Barabena. Voisin Alexandre.
5.
Bérémy Jaloui.
5.
Bouchama.
5.
Chichi Bouchama.
6.
Priolo Chetri.
6.
Froidou Alphonse.
6.
Guilla Joseph.
5.
Tissé Jean.
5.
Pitré Germain.
5.
Voisin Romain.
6.
Voilà, Richard André.
Je vais bien dire ça.